carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Fragonard, les plaisirs d'un siècle, ou Fragonard revisité. Carrefour des Arts s'invite aujourd'hui chez l'un des plus grands artistes du XVIIIe français, Jean-Honoré Fragonard, dont la carrière s'est principalement déroulée à Paris. Et à l'occasion du bicentenaire de sa mort en 1806, Paris se devait donc de lui rendre hommage. Tel est le sens de l'exposition que le musée Jacques Marandré lui consacre du 3 octobre 2007 au 13 janvier 2008. Une centaine d'œuvres et de chefs-d'œuvre y sont présentés, venus de collections publiques et privées des plus prestigieuses du monde entier. Canal Académie a déjà eu maintes occasions de se rendre à cette superbe demeure du XIXe siècle qui, avant de devenir le musée que l'on sait, fut l'hôtel particulier du couple Édouard André et Nelly Jacquemart. Le musée Jacquemart-André abrite aujourd'hui de chefs-d'œuvre qui ont marqué l'âge d'or de la peinture française. Et parmi les richesses qu'il nous offre, citons des œuvres par exemple de Watteau, Boucher ou Chardin. Fragonard ne pouvait donc pas manquer de s'y trouver, d'autant qu'il figurait déjà en bonne place dans la collection d'Édouard André. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons Marianne Dupuy-Vacher, commissaire de cette exposition. Madame Dupuy-Vacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, vous avez travaillé durant de longues années au musée du Louvre et participé à l'exposition Fragonard qui a eu lieu en 1987-88, me semble-t-il. Oui. D'abord au Grand Palais à Paris et ensuite au Metropolitan Museum à New York. Une monographie sur Fragonard parue en 2006 et un Fragonard et le Roland furieux, dont il sera beaucoup question tout à l'heure, sont autant de témoignages de votre intérêt ou peut-être de votre passion pour ce peintre, n'est-ce pas? Et la communauté artistique vous doit des recherches capitales sur son œuvre, des recherches qui ont même bousculé un certain nombre d'idées toutes faites, disons même de clichés autour de Fragonard. Mais avant d'approfondir vos vues ou disons vos découvertes, pourriez-vous déjà nous confier l'origine de cette prédilection? Pourquoi Fragonard? Est-ce l'esprit d'une époque qui vous a fasciné en lui, ou la qualité de son pinceau, de sa touche, ou encore le choix de ses sujets? Où placez-vous principalement l'excellence de Fragonard?
Écoutez, ce sont toutes des affaires de circonstances, en fait. Donc, ma passion pour Fragonard a été progressive. J'étais plutôt à l'origine 17e. Et en fait, c'est Pierre Rosenberg qui m'a embarqué dans cette aventure il y a plus de 20 ans, lorsqu'il préparait justement cette grande rétrospective au Grand Palais et au Metropolitan, comme vous l'avez rappelé. Et il avait besoin de quelqu'un pour l'assister. Et donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé uniquement sur Fragonard avec Pierre Rosenberg. Et donc, j'ai découvert Fragonard, j'ai découvert un certain 18e siècle. Et puis bien des années plus tard, un éditeur m'a demandé si je pouvais publier les dessins de Fragonard pour le Roland furieux. Et à cette époque-là, je n'étais pas très occupée et donc j'ai accepté et ça m'a fait replonger dans l'univers de Fragonard. Et là, avec le recul, avec l'expérience, j'ai découvert des tas de choses. J'ai découvert que Fragonard, en effet, n'était pas seulement le chérubin de la peinture érotique, comme l'ont décrit les frères Goncourt de manière très réductrice, mais était un artiste beaucoup plus riche. Et du coup, ça m'a donné envie de poursuivre ce travail. Et lorsque le musée Jacquemart-André m'a proposé de faire une exposition pour leur musée, eh bien, j'ai pensé que c'était le sujet tout à fait adéquat pour leurs espaces. C'est un musée qui donne un peu l'impression d'être dans une maison, dans un intérieur privé.
Un extrême raffinement.
Exactement. Et même si l'architecture est 19e, elle pastiche celle du 18e. Et donc, nous avons des volumes qui rappellent beaucoup le 18e siècle, avec des pièces avec des cheminées et des petites pièces assez réduites tout de même. C'est pas du tout les grands espaces du Grand Palais. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de calibrer un peu le sujet en fonction des espaces. Et la promenade auquel j'invite le visiteur dans cette exposition, je crois, permet de redécouvrir l'artiste tout en ayant un fil conducteur, c'est-à-dire ses sources d'inspiration qui sont souvent, très souvent littéraires.
Ben, vous m'avez un peu devancé parce qu'on parlera plus en détail et de ses sources d'inspiration et surtout de vos découvertes. Mais voyons peut-être tout de suite un tout petit peu comment situer Fragonard dans son siècle, sa vie, sa carrière, ses voyages, ses fantaisies.
Alors Fragonard, c'est un peintre mystérieux qui, même après des années de travail sur lui, reste toujours avec beaucoup de mystère, des parts d'ombre. Lui n'a jamais écrit ou très peu, c'est simplement quelques signatures. D'ailleurs, il signait très rarement ses œuvres et souvent c'était uniquement un rapide fragot.
Quand on parle de fragot,
c'est pas du tout être désinvolte avec l'artiste. C'est au contraire prouver qu'on a une certaine sympathie, qu'on est en sa compagnie.
Il y a une petite partie seulement de son œuvre qui est signée.
Très petite partie, très 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 maigre partie, et il date encore moins souvent ses œuvres, donc il faut deviner. Et le peu de choses que l'on sait sur sa vie, c'est son petit-fils Théophile Fragonard qui fut peintre à la Manufacture de Sèvres et qui a rencontré les frères Goncourt et d'autres historiens de l'art à qui il a raconté ce qu'il savait sur son grand-père. Mais ses souvenirs sont des souvenirs répétés, rapportés, parce que lui-même n'a pas connu Jean-Noré Fragonard. Il est né en 1806, l'année même où meurt son grand-père. Donc il faut prendre ses souvenirs avec prudence. Mais évidemment, comme c'est la seule source que nous ayons, évidemment, nous nous penchons attentivement dessus.
Il y a quand même eu des traces lors de ses voyages en Italie.
Alors voilà, les deux grands, on pourrait dire, les deux grands piliers de sa vie, ce sont ces deux voyages en Italie. Le premier qui se passe en 1756-1761, qui est à l'origine de tout le cursus de chaque artiste qui se respecte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le voyage en Italie nécessaire pour approfondir son art, pour découvrir les grands modèles du passé, la peinture baroque, les œuvres de Raphaël ou de Michel-Ange. Et Fragonard a pu réaliser ce voyage grâce au prix de Rome qu'il a remporté en 1752. L'âge de 20 ans.
C'est avec quelle œuvre ?
Avec un tableau intitulé « Jéroboam, sacrifiant aux idoles », donc un tableau d'histoire inspiré de la Bible, un tableau sérieux, c'est un tableau, très beau tableau, mais... complètement académique, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas encore la personnalité de Fragonard, qui d'ailleurs n'a pas encore eu l'occasion de se révéler. C'est un artiste quand même qui s'est formé assez rapidement, il est donc originaire de Grasse, il est arrivé en Paris, on ne sait pas exactement à quelle date, vers l'âge de 8 ans probablement, avec ses parents. Et comme il dessinait beaucoup, sa mère a eu la bonne idée d'aller l'emmener chez Boucher, qui a trouvé que l'artiste était encore un peu trop jeune, et l'a envoyé donc chez Chardin. Et puis, quelques mois après, il est revenu chez Boucher, qui l'a engagé. Et c'est Boucher qui lui a dit « Tu es mon élève, présente-toi au concours du Prix de Rome ». Ce qui est une façon tout à fait exceptionnelle, parce que pour se présenter au Prix de Rome, en général, il faut être élève de l'Académie. Et Fragonard ne l'est pas. Donc, il remporte ce prix dans des circonstances exceptionnelles. Puis, quelques années après, s'être perfectionné à l'École royale des élèves protégés, dirigée par Van Loo, il part en Italie. Et il retournera en Italie quelques années plus tard, en 1773, pour un long voyage financé par un fermier général, Bergeret de Grandcourt. Voilà, donc là, ce sont un peu les deux piliers qui nous permettent de situer sa carrière. Et donc, quand on date une œuvre, on dit est-ce que c'est avant ou après le premier ou le second voyage en Italie.
Oui.
C'est un peu flou, mais c'est les seuls points de repère solides que nous ayons.
Et en Italie, il fait la connaissance d'un personnage qui reste important dans sa vie, l'abbé Sanon.
L'abbé de Sanon. Le premier voyage en Italie, bien sûr, absolument essentiel et fondateur pour son œuvre, pour ce qu'il y apprend, pour les maîtres qu'il rencontre comme Natoire, qui dirige l'Académie de France à Rome, pour sa rencontre avec Hubert Robert, autre grand artiste avec lequel il va dessiner dans la campagne romaine. Et il y a certaines œuvres, on a beaucoup de mal à départager qui a dessiné Telle Sanguine, est-ce Robert ou est-ce Fragonard. En tout cas, il y a une vraie stimulation entre les deux artistes. Et puis l'abbé de Sanon, qui vient faire son grand tour, ce grand voyage en Europe et en Italie, comme le font beaucoup des financiers et des amateurs cultivés, collectionneurs, comme l'est l'abbé de Sanon, qui est un de ses nombreux abbés du XVIIIe siècle, qui n'appartient au clergé que pour toucher les revenus d'une abbaye, mais qui n'est pas plus abbé que vous ou moi. Et
c'est un homme d'art.
C'est un homme d'art, c'est un mécène très généreux avec Fragonard, qui a tout de suite compris le génie de Fragonard, qui va vraiment encourager ses débuts, qui va lui permettre de revenir en France progressivement, c'est-à-dire en faisant étape dans toutes les grandes villes d'Italie, pour ainsi se former l'œil, compléter sa culture visuelle, parce qu'en général, les artistes qui allaient en Italie allaient à Rome, et puis c'est tout. Et avec l'abbé de Sanon, il parcourt toutes les villes d'Italie, il va dans les églises, dans les palais, donc il se constitue.
Il l'amène à Naples.
Il l'envoie à Naples. Enfin, c'est absolument fabuleux pour Fragonard. Et puis, ils reviennent en Italie ensemble et l'abbé de Sanon restera un ami fidèle. Il a même couché Fragonard sur son testament.
Ah oui.
Oui, donc c'est vraiment une très longue amitié.
Oui, c'était une belle
et
amitié.
Et on dit même qu'à une époque où Fragonard, à un moment où Fragonard est devenu célèbre et où ses œuvres commençaient à atteindre un certain prix, l'abbé de Sanon lui a redonné des œuvres qu'il avait acquises plus jeune, pensant qu'il était juste que Fragonard bénéficie maintenant de sa gloire et que l'abbé de Sanon n'en profite pas inconsidérément.
Oui, ici on peut peut-être évoquer rapidement que, contrairement à certaines rumeurs très malveillantes, il était finalement très pauvre.
Les débuts de Fragonard sont dramatiques. C'est ce que l'on apprend, enfin ce que j'ai pu apprendre à travers un manuscrit d'un écrivain très connu de l'époque, Louis-Sébastien Mercier, qui est un peu un chroniqueur de son temps sur Paris, sur la vie quotidienne, un auteur fabuleux. Et puis, il y a des manuscrits qui sont restés inédits. Et,
pardon, je vous coupe une seconde, mais qui figurent dans ce magnifique catalogue. Et j'en profite pour vous féliciter, parce que vous êtes donc responsable aussi de ce superbe catalogue,
encore une fois,
de l'exposition. Et donc, il y a plein de choses qu'on apprend, comme notamment ce manuscrit inédit.
Ces débuts difficiles, peut-être qu'on les devinait, mais là, on en apporte la preuve. Enfin, j'en apporte la preuve avec ce manuscrit qui avait été découvert par un Américain, mais qu'il avait cité certaines parties à propos de Greuze. Et là, j'ai pu retranscrire les passages qui concernent spécifiquement Fragonard. Et ce témoignage est complètement poignant parce qu'il nous montre un Fragonard donc, quand il revient d'Italie, entre 1761 et 1765, qui crève la misère, vraiment, et qui est même obligé de mettre en gage ses habits pour arriver à survivre. Et il est tellement bohème, pourrait-on dire, et artiste passionné par son art qu'il ne se préoccupe pas du tout de gagner de l'argent. Et les amateurs, les collectionneurs de dessins viennent dans son atelier, lui chipent un ou deux dessins par-ci, par-là, et ne lui payent pas. Ou sinon, en petits gâteaux, aux petits biscuits que l'artiste aime. Donc, c'est assez terrible.
Et comme puis, d'ailleurs le roi, qui a beaucoup tardé à lui.
Absolument, quand il se agrée à l'Académie.
Son fameux tableau, oui.
Corésus et Caliroé, grand tableau acclamé par la critique et par Diderot, entre autres, qui est tout de suite acheté par le roi en 1765, mais que le roi et l'administration royale va mettre énormément de temps à lui payer. Donc, entre-temps, Fragonard a besoin de vivre. Et Madame Fragonard, heureusement, va arriver. C'est-à-dire Marie-Anne Gérard, qui est originaire de Grasse, comme Fragonard, qui est de 15 ans sa cadette, arrive à Paris, on ne sait pas exactement à quelle date, mais en tous les cas, elle épouse Fragonard en 1769. Ils ont très vite un enfant, Rosalie, et Madame Fragonard va faire rentrer l'argent dans les caisses. Je veux dire, on comprend pourquoi après Fragonard l'appelait ma caissière.
Ça
paraissait assez péjoratif, mais finalement, c'est une manière tendre. On doit à Madame Fragonard finalement le fait que Fragonard ait pu poursuivre sa carrière et ne pas périr dans la misère.
Oui, mais il reste donc tout de même beaucoup de zones d'ombre qui demeurent dans sa biographie. Et je me réfère particulièrement à une contribution dans les catalogues donc, de l'exposition de Pierre Rosenberg, de l'Académie française, que vous avez bien connu et que vous avez bien mentionné tout à l'heure, pour avoir étroitement collaboré avec lui. Donc, d'ailleurs, nous allons y revenir. Mais il soulève certaines questions de fond que je prends la liberté de vous poser ici, puisqu'il vous rend vraiment un vibrant hommage, comme en quelque sorte la découvreuse d'une face cachée de Fragonard. Alors voici donc les quelques points sur lesquels nous aimerions recueillir votre sentiment, si vous voulez bien, Madame Dupuy-Vacher. La distinction, par exemple, entre Fragonard et Hubert Robert, que vous venez d'évoquer, et aussi la distinction entre Fragonard et Boucher. Ça intéressera certainement beaucoup les lettrés et les connaisseurs.
Oui, au passage, comme vous mentionnez à nouveau Pierre Rosenberg, je veux dire, on a mon tour, hommage à Pierre Rosenberg. Sa préface doit être absolument lue, elle est amusante, elle est drôle et vraiment introduit bien au catalogue. Et j'ai beaucoup appris, évidemment, auprès de Pierre Rosenberg. La différence entre Fragonard et Hubert Robert, ce sont deux personnages diamétralement opposés. Leurs origines, déjà, Fragonard est le fils d'un marchand gantier, artisan gantier, vous savez, la ville de Grasse, avant de devenir la grande ville des parfums, était surtout réputée pour ses tanneries, ses fabriques de peau et donc de gants. Et après, justement, elle deviendra spécialiste dans les parfums, puisqu'il fallait à l'époque, il faut toujours parfumer les peaux qui sinon ont pesté. Donc Fragonard est quand même d'origine assez modeste, alors que Hubert Robert est le fils d'un écuyer du prince de Soubise. Et donc, il a eu une culture assez importante, il a fait des études au Collège de Navarre, il est introduit dans le monde, il maîtrise le latin, il a une vie mondaine importante. Donc déjà, beaucoup de choses les séparent. Mais ça ne les empêche pas de sympathiser et, comme je vous l'ai dit, à Rome, vraiment, d'aller dessiner dans la campagne romaine ensemble, avec l'abbé de Sanon, à Tivoli notamment. Tous les deux dessinent les mêmes endroits.
C'est merveilleux.
Et c'est très difficile d'arriver à distinguer. Les jardins de la Villa d'Est, par exemple, et la campagne romaine, et la Villa de vestibule. Enfin, c'est vraiment des sanguines magnifiques dans l'œuvre de chacun des deux artistes.
Qui se trouve, excusez-moi de vous interrompre, mais qui se trouve donc dans la collection
Musée Besançon. Qui viennent de la collection de Pierre-Adrien Paris, architecte contemporain de Fragonard, qui l'a fréquenté d'ailleurs lors de son second voyage en Italie, et qui a rassemblé une collection très importante, et notamment une série de Fragonard superbes, qui ont été exposées l'année dernière au Musée de Besançon, et qui vont être à nouveau exposées au Musée de Caen dans quelques mois.
Ah oui, voilà. Nous avons d'ailleurs invité M. Pierre Rosenberg à cette occasion,
il a établi le catalogue complet des Fragonard du Musée de Besançon. C'est une collection superbe, et dans l'exposition du Musée Jacques-Marandré, nous exposons justement un dessin de cette collection, l'Arioste inspiré par l'amour et la folie, mais nous en reparlerons plus tard.
Oui.
Et pour finir avec Hubert Robert et Fragonard, leurs origines sont différentes, leurs techniques se ressemblent dans cette période des années 1760, et puis ensuite leurs chemins divergent dans le sens où Fragonard est un artiste qui va sans arrêt chercher de nouvelles inspirations, de nouveaux thèmes, et faire évoluer sans arrêt son style, l'adaptant à chaque fois au sujet, alors que Hubert Robert, pour autant que l'on sache, et malheureusement on manque de littérature, d'études, d'expositions sur Hubert Robert, on a l'impression que c'est un artiste qui se répète plus facilement. Il donne dans un genre bien particulier des vues de paysages, de parcs, de villas, et qu'il brode sur ce thème-là, mais n'a pas cherché vraiment à
explorer.
Et en fait, Hubert Robert a une formation d'architecte au départ, en fait. Et donc, c'est ça qui va dominer un petit peu dans son œuvre, c'est de construire des paysages, construire des compositions, mais ce n'est pas un peintre de scène de genre, ni de personnages, c'est toujours des petites figurines en général dans ses tableaux.
Et à cette époque, donc, avant de rentrer à Paris, Fragonard n'a pas encore cette inspiration pour les sujets un peu libertins, disons.
Alors, c'est je pense, là aussi, tout se noue, je crois, apporter la preuve dans le catalogue que les premières illustrations qu'il fait pour une œuvre littéraire, les contes de La Fontaine, les contes de nouvelles de La Fontaine, c'est à Rome. Nous sommes en 1761. C'est, pour ainsi dire, certifié par le fait que, bien des années plus tard, sous le Directoire, quand l'imprimeur Diderot décide d'utiliser des dessins de Fragonard pour faire une édition gravée d'après ses dessins, eh bien, l'annonce dans le Mercure de France précise que ces dessins ont été faits dans le feu de la jeunesse à Rome.
Ah oui.
Et ça, je crois que ce détail est vraiment important pour arriver à bien situer ces dessins. Il y a plusieurs séries de dessins qui ont donné lieu à beaucoup de copies, de contre-épreuves. Il y a beaucoup de suspicions autour de ces illustrations et qui fait qu'on les a souvent un petit peu laissées de côté, alors que je crois que justement, elles sont formatrices aussi pour Fragonard. Parce que pour la première fois, il est confronté à un texte littéraire important qui, de plus, est vraiment d'une inspiration très particulière, très libre. Bertine, très crue,
ça
n'a rien à voir avec les fables. Et là, tout un répertoire de situations, d'anecdotes se s'ouvre à lui qu'il va savoir très bien capter. Et
donc, il en aurait pris connaissance déjà à Rome.
Absolument, absolument. Et il dessine la première série qui est à la pierre noire, qui appartient à une collection privée américaine que je n'ai malheureusement pas pu emprunter. Cette première série est faite à Rome, assurément. Et on peut comparer leur style justement aux copies que Fragonard fait de l'abbé de Sanon. C'est même très hachuré à la pierre noire, assez régulier. Et donc, on connaît une soixantaine de compositions d'après les contes de La Fontaine.
Et qu'on trouve évidemment en partie exposées à Jacques Marandré.
Alors, à Jacques Marandré, nous exposons la seconde série, c'est-à-dire ce sont les contre-épreuves par Fragonard de cette première série, mais rehaussées de la vie, donc animées avec de la vie brun, bistre, qui anime, qui précise un petit peu les compositions.
Et aussi quelques gravures, d'ailleurs.
Et puis, cette deuxième série, après, on en connaît une troisième, c'est-à-dire quand Fragonard a dû préciser ses compositions pour le graveur, quand, sous le Directoire, bien des années plus tard, donc un projet d'édition gravée voit le jour.
Oui.
Donc, il y a une troisième série. Et puis, enfin, les gravures. Mais il n'y a qu'une vingtaine de gravures qui vont paraître, d'après les compositions de Fragonard, le projet Diderot échoue.
Et donc, c'était déjà très, très choquant, par exemple, pour M. Diderot.
Oui, alors, les a-t-il connus, en tout cas, choquant, peut-être pas pour Diderot. En tout cas, il était choqué de voir un artiste destiné au grand genre, c'est-à-dire à la peinture d'histoire, se détourner de cette voie officielle, se détourner d'un parcours vraiment sérieux pour, justement, traiter, entre autres, ces sujets libertins. Ça, Diderot n'a jamais pardonné à Fragonard.
Est-ce qu'on connaît un peu la raison pourquoi il se serait détourné, donc, du grand genre, de l'Académie? Et de ses privilèges aussi, quand même.
Il a traité avec beaucoup de légèreté l'Académie, ça c'est certain. C'est un artiste très indépendant, c'est sans doute vraiment ce qui vient à l'esprit quand on veut caractériser Fragonard, c'est son indépendance d'esprit, son indépendance stylistique, son indépendance à tout point de vue. Et le carcan de l'Académie ne devait pas, a priori, être fait pour lui. Un artiste, quand il veut justement poursuivre une carrière officielle, il doit donc faire partie de l'Académie. Ça se passe en deux temps. Tout d'abord, un morceau d'agrément, comme on dit, c'est-à-dire un tableau ou une sculpture pour un sculpteur, par exemple. Et puis ensuite, être reçu avec un morceau de réception. Et bien Fragonard, donc, il présente ce morceau d'agrément en 1765, le Choresius et Caliroé, acclamé, comme je vous l'ai dit, grand succès, et il ne présentera jamais son morceau de réception. Il est agréé, il obtient tout de suite un logement au Louvre, donc là, ses conditions matérielles, ça s'améliore d'une certaine manière. Il est logé au Louvre, il a un atelier, il est au milieu de tous ses contemporains, artistes comme lui et ses confrères, donc c'est très stimulant pour lui, mais il ne donnera jamais son morceau de réception. Alors, beaucoup d'artistes tardent à le redonner, ils mettent plusieurs années, c'est le cas par exemple de Greuze, mais Fragonard, eh bien non, il va le traiter avec beaucoup de légèreté, l'Académie. Et par exemple, quand il repart en Italie, avec Bergeret en 1773, tout artiste de l'Académie doit en général prévenir l'Académie qu'il part. Eh bien, lui, il ne l'a pas fait. Et on a des procès-verbaux des réunions d'académiciens qui disent que M. Fragonard est parti sans prévenir par légèreté et insouciance. Et c'est assez amusant, au passage, de voir que l'Académie n'est pas du tout rancunière envers Fragonard, puisque le musée Jacques-Marandré, qui dépend de l'Institut, accueille en ses murs l'exposition Fragonard.
Oui, mais on a changé d'époque.
Absolument. Et on reconnaît le talent qui n'a pas besoin forcément d'être
sous. Donc, c'est un peu le rebelle qui s'est...
Oui, c'est un rebelle. C'est un peu trop fort, parce que par ailleurs, c'est un artiste, c'est ça, c'est un artiste complexe et qui est peu sûr de lui, peu confiant et qui, évidemment, supporte mal la critique. Quand il est à Rome, à l'Académie de France à Rome, Natoire écrit à Paris en disant « Mais quel est cet étudiant que vous m'avez envoyé ? Il n'arrive pas à travailler, il revient sans arrêt sur lui-même, il n'arrive pas à achever ses œuvres. » C'est un artiste qui a peu confiance en lui-même et qui n'a pas d'ego et d'orgueil et à penser toujours qu'il est extraordinaire. Au contraire, il a un côté timoré, en fait, qui surprend beaucoup ses maîtres. Et c'est pourquoi aussi, peut-être aussi, il va préférer peindre dans son atelier pour des amateurs qui sauront apprécier ce style libre et esquissé qui fait sa particularité et qu'évidemment ne pouvait pas tolérer l'Académie.
Oui, parce qu'il était quand même très très apprécié d'une clientèle privée.
Voilà, c'est une clientèle privée. Donc,
ils ont de la noblesse.
Les aristocrates essentiellement, et qui va le payer. Alors que le Choresius, comme je vous l'ai dit, on met beaucoup de temps à lui payer, et ce qui l'oblige d'une certaine manière.
Ça l'a découragé quand même.
Ça l'a découragé, et ça l'oblige évidemment à trouver d'autres subsides, et donc la clientèle privée est obligatoire pour lui. Et il dédaigne du coup les commandes officielles pour Versailles, pour Marly, pour le Louvre. Il n'y répond pas, ce qui est très surprenant, mais en même temps, bon, voilà, il a une femme, il a un enfant, bientôt deux, il a besoin de vivre, et puis il est découragé, il manifeste sa mauvaise humeur, c'est un caractère sûrement pas très facile, on connaît plusieurs brouilles avec ses commanditaires. Et voilà, donc... Mais les critiques de l'époque ont été très dures envers lui. On en a fait un artiste vénal qui préfère gagner de l'argent plutôt que justement se consacrer à son art.
Ce qui est quand même un comble dans son cas.
C'est un comble, c'est absolument un comble.
Et nous, on a profité donc de cette liberté d'esprit pour nous avoir laissé ces magnifiques, magnifiques toiles.
Très librement composées.
Voilà. De libertinage aussi, oui. Donc il y a encore toute une série de questions, mais peut-être on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien. Par exemple, je vous propose Mozart, pourquoi pas, c'est un contemporain, on peut dire quand même, de Fragonard. Et puis, je pense qu'il s'apparente par les mêmes qualités de légèreté aérienne et dans la touche et dans la note, n'est-ce pas? Ces délicieuses et délicates notes de Mozart, nous reprenons le cours de notre entretien avec Marianne Dupuis-Vacher sur les traces d'un Fragonard nouveau que les recherches approfondies et le regard scrutateur de notre invité nous aident à découvrir. Permettez-moi, Marianne Dupuis-Vacher, de mentionner une fois encore Pierre Rosenberg. Lors de la fameuse exposition que vous avez évoquée tout à l'heure au Grand Palais en 1987 et 88, il annonçait déjà que vous auriez souhaité pousser plus avant la recherche sur certains aspects de la carrière de Fragonard, alors occultée. Puis Jean-Pierre Bablon, lui, membre de l'Institut et président de la Fondation Jacques Marandré, considère que, au-delà d'avoir tenté une rétrospective, vous avez cherché et trouvé des clés d'inspiration qui nous la découvrent, cette rétrospective. Et puis se joint à ces hommages éminents le conservateur du musée Jacques Marandré, Nicolas Sainte-Fargarneau, qui a assuré avec vous d'ailleurs le commissariat de cette exposition. Alors lorsqu'il évoque, je cite encore, donc Nicolas Sainte-Fargarneau, « Le regard que vous portez sur Fragonard en dévoile de nouvelles facettes ». Alors quel est donc ce Fragonard méconnu que vous avez fait surgir, Marie-Anne Dupuy-Vacher?
Eh bien, ce Fragonard, c'est un autre Fragonard que celui des Goncourt dont je parlais tout à l'heure. C'est un Fragonard qui peint de manière virtuose, bien sûr, mais qui ne peint pas comme l'oiseau chante, comme on pourrait le croire. C'est-à-dire, c'est un peintre qui s'interroge sur son art, qui se pose des questions et qui va chercher les sources d'inspiration chez les auteurs de son temps ou les auteurs du passé. C'est un auteur inspiré et qui rivalise un peu d'inspiration avec les écrivains qu'il sait magnifiquement mettre en scène. En fait, il ne les illustre pas, il les accompagne. Le terme d'illustration est très réducteur, là aussi, pour qualifier tous ces dessins d'après La Fontaine ou d'après l'Arioste ou d'après Don Quichotte. C'est vraiment une autre façon de comprendre un texte et de le mettre en scène.
Donc, par exemple, dans les contes de La Fontaine, il fait une nouvelle mise en scène, comme vous venez de dire.
Vraiment, il retient tous les éléments, mais il arrive à les porter d'une manière, comment dire, suggestive et non pas illustrative. Les contes de La Fontaine sont parfois très longs et alambiqués. C'est des histoires de tromperies, de gens qui sont dupes les uns des autres, avec des histoires d'argent, des histoires d'alcôve. Et lui, il sait choisir d'abord le moment précis à illustrer, le moment intense qui va vraiment refléter complètement l'intrigue. Il va prendre quelques éléments, mais qu'il va, de son pinceau très léger, très rapide, oui, juste suggérer. Les expressions de ces personnages sont données avec quelques traits de pinceau. Par exemple, les yeux de ces personnages sont comme des petits boutons de bottine, c'est juste des petits points, oui, et qui, avec un ou deux accents, ont l'air complices, coquins, tendres. C'est assez extraordinaire, là, l'économie de moyens qui, en même temps, en dit beaucoup. Et puis, ces personnages sont toujours très jeunes. Donc, ça donne aussi un caractère beaucoup plus gai que graveleux, par exemple, comme d'autres illustrations de La Fontaine peuvent l'être, qui insistent beaucoup plus sur l'aspect érotique et parfois pornographique. Oui. Chez Fragonard, nous sommes dans l'humour, dans l'esprit, dans la légèreté.
Oui, et dans la poésie.
Dans la poésie, bien sûr.
D'ailleurs, quand vous avez parlé donc, de ce visage jeune, avec juste une petite touche pour marquer l'œil, ça me fait évidemment penser à ce magnifique tableau qui se trouve dans l'exposition et qui est d'ailleurs dans la collection Jacques Marandré.
Les débuts du modèle.
Ah,
c'est un tableau merveilleux.
Oui.
C'est un sujet très intéressant. Et c'est Greuze qui aurait demandé à Diderot ce sujet. Il lui aurait dit « Je voudrais peindre un nu sans heurter la pudeur. » Et Diderot lui aurait dit « Peignez le modèle honnête. » On ne connaît pas une telle scène sous le pinceau de Greuze. En revanche, Baudouin, un autre élève de Boucher, a représenté la scène dans une gouache célèbre qui est à Washington, avec beaucoup de détails, de coloris, de mouvements en même temps figés, mais une surcharge de détails anecdotiques. Et chez Fragonard, au contraire, on n'est pas dans l'anecdote. Lui a peint la scène de manière avant tout humoristique, avec un peintre déjà qui est dans un habit de satin rose. Donc, on imagine quel genre de peintre il est, un peintre de boudoir. Donc, ce n'est pas Fragonard. Et puis, il soulève de son appui-main le jupon de la jeune fille qui fait mine de résister, tandis que la mère découvre la gorge de sa fille. Tout ça, il y a un jeu de regard assez extraordinaire.
Comme dans un film.
Tout à fait. C'est-à-dire que le mouvement passe, l'expression passe avec très peu de moyens.
Oui, mais bien sûr, nous allons tout à l'heure découvrir cette exposition particulièrement plus en détail. Alors, ces sources d'inspiration qui ont donc accompagné les différentes époques de son cheminement pictural, a commencé par son académisme et puis la découverte à Rome, comme vous avez dit, des contes de La Fontaine. Et puis ensuite, donc, ses sources d'inspiration varient selon les différentes rencontres.
Alors, on ne sait pas justement les rencontres. A-t-il rencontré les philosophes de son temps, les écrivains, allait-il au théâtre? On ne sait rien sur sa vie quotidienne. Mais on sait, on le voit dans ses œuvres, qu'il les a lus, qu'il a lu ses contemporains. Et par exemple, il a lu Le Chevalier de Boufflers.
Ça, c'est vraiment votre découverte.
Oui, c'est-à-dire que vraiment, je mets des petits éléments qui étaient été suggéré, quelquefois dit, mais là, je mets, comment dire, noir sur blanc et avec une espèce de chronologie, je rassemble suffisamment d'éléments pour prouver vraiment que ce n'est pas un hasard, que chez Fragonard, il y a un vrai intérêt, une vraie passion pour la lecture et qu'il l'a fait aussi par plaisir. Peut-être qu'il a eu des commandes, mais en tout cas, aucune de ses illustrations n'a abouti dans un livre gravé. Ce sont tous, on pourrait dire, de ce point de vue-là, des échecs, mais en fait, visiblement, Fragonard faisait ça pour son plaisir avant tout. Et c'est ça qui nous fait passer, en fait. On sent une jubilation et un plaisir,
une passion,
absolument,
oui.
Dans sa manière d'illustrer. Et même si l'œuvre, il s'arrête en cours de route, comme pour l'Arioste ou Don Quichotte, eh bien, en tout cas, au départ, il y a une énergie, une séduction qu'il arrive à nous faire partager.
Oui, le meilleur exemple, le Roland Furieux, Orlando Furioso,
qui prend
une place exceptionnelle dans cette exposition. Vous allez peut-être nous en parler encore tout à l'heure, mais il a mis en valeur...
Il a mis en scène...
Certaines strophes du début de Roland Furieux.
Le Roland Furieux est un immense poème de 40 chants, et Fragonard s'est arrêté au bout du 15e chant. Et rien que pour ces 15 premiers chants, j'ai pu répertorier 180 dessins, ce qui est absolument faramineux, et évidemment qui n'aurait pas pu déboucher sur une édition gravée qui aurait coûté beaucoup trop cher. Donc vraiment, Fragonard prend le poème au fur et à mesure, il illustre quelquefois pour, par exemple, divers, nous avons 3 dessins. Et c'est pour ça que l'on peut parler, ça peut paraître de manière un peu triviale, mais de préfiguration de la bande dessinée. On a vraiment le mouvement qui s'enchaîne, par exemple, de la pauvre Olympe, fille du roi de Hollande, qui est abandonnée par son amant Birène, et qui se lève, qui sort de son lit, qui court vers le rivage, qui voit le bateau s'enfuir et qui s'écroule sur le rocher. Enfin, tout ça se décliner en 6-7 dessins, c'est absolument extraordinaire. Le mouvement est décomposé.
Avec un mouvement, encore une fois, extrêmement...
Et suggéré par un lavis très léger, nuancé sur une esquisse à la pierre noire tourbillonnante. C'est une sorte d'enchevêtrement de lignes très rapide. On sent que vraiment Fragonard est inspiré. Il y a un souffle, le souffle de la poésie de l'Arioste qui passe dans ses dessins.
Oui, on peut vraiment parler d'un génie quand même.
Oui, absolument.
Oui.
Absolument.
Oui. Donc ces différentes sources d'inspiration, outre les dessins, dans les huiles, dans les toiles... On ressent cette même fougue, cette légèreté en même temps.
Notamment dans ces portraits de fantaisie. Ces fameux portraits vus à mi-corps de personnages déguisés avec des costumes du XVIIe siècle, qu'on appelait costumes à l'espagnol, avec des collerettes blanches, des poignets blancs, des manches à crever. Il y a là aussi un choix de mise en scène un peu héroïque.
Oui.
Il fait de ces personnages des héros de romans, de nouvelles. Il y a une certaine nostalgie pour le passé, mais c'est aussi une mode à l'époque de représenter des personnages comme ça un peu déguisés. Mais chez Fragonard, ça prend une autre dimension.
Et toujours dans des couleurs subtiles, un mélange vraiment onirique, poétique et par moments très humoristique. Oui. Et d'ailleurs, peut-être vous pouvez nous laisser entrevoir les coulisses de cette exposition, nous dévoiler quelques secrets de votre organisation. Vraiment, encore une fois, félicitations, parce que ça ne devait pas être très, très facile de rassembler toutes ces œuvres qui sont éparpillées
aux quatre coins du monde. C'est toujours difficile. D'abord, les expositions, c'est devenu de plus en plus difficile, étant donné que de plus en plus d'institutions en organisent. Donc, bien sûr, on entre en rivalité avec d'autres organisateurs d'expositions. Et puis, surtout, quand on traite un artiste aussi célèbre que Fragonard, c'est difficile d'arriver à décrocher dans tel ou tel musée, telle ou telle œuvre, qui est en quelque sorte le chef-d'œuvre du musée. Par exemple, la liseuse de Washington, évidemment, ils ne pouvaient pas nous la prêter, mais ils nous ont prêté la très belle scène de la visite à la nourrice que nous avons pu exposer. Et puis, ils nous ont prêté de très beaux dessins. Mais c'est vrai, ça demande toujours de longues négociations, ça demande de connaître les conservateurs, de rentrer en contact avec eux, de leur expliquer la pertinence de notre projet, et que ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'emprunter un Fragonard, mais qu'il a sa justification précise, que c'est cette œuvre-là et pas une autre qui nous intéresse. Et puis, Fragonard, la difficulté aussi, c'est que c'est un artiste qui est conservé aussi beaucoup en main privée. Donc là aussi, c'est difficile de savoir où est telle et telle œuvre. Ça change beaucoup de génération en génération. Depuis 20 ans, depuis l'exposition du Grand Palais, elles ont changé de main. Donc, il faut retrouver leur trace, il faut passer par des maisons de vente. Il faut là aussi convaincre les propriétaires de prêter, qui sont quelquefois un petit peu, on peut le comprendre, réticents à se séparer pendant 3 mois d'un tableau au-dessus qui est dans leur salon ou d'un dessin. Voilà, là aussi, il faut convaincre que le musée Jacques Marandré est un musée sérieux, qu'il a toutes les conditions qu'il faut pour exposer dans de bonnes conditions les tableaux, les dessins, avec la bonne luminosité, la bonne température. Donc,
oui.
Voilà, c'est, en effet, ça demande
oui,
du peut-être on n'a pas du matériel.
Peut-être que l'Institut était quand même un certain garant pour souligner l'importance de Jacques Marandré. Et puis surtout, je crois, les dessins de la série Orlando Furioso, justement, c'était
complètement
vraiment
disséminé dans le monde entier. Il y en a même au Japon et en Australie. On n'est pas allé les chercher jusque-là. Comme il y en a 180, j'ai pu en trouver plus proche, notamment au British Museum, mais aussi à la National Gallery de Washington, et aussi beaucoup pour ma privée. Il y en a quelques-uns, de temps en temps, qui passent en vente. Alors, les propriétaires se signalent et ils sont contents aussi que je leur dise précisément mais que représente la scène. Donc voilà, ouais. On tisse un réseau comme ça de relations.
Et ça prend combien d'années alors pour mettre ça sur pied ?
Celle-ci, écoutez, elle a pris, à partir du moment où on m'a demandé de m'en charger, de 2 ans et demi. Mais ça nécessite aussi derrière de nombreuses années quand même de connaissances pour
ça,
vraiment...
Ça, bien entendu, voilà. Oui, oui, ouais. Oui.
Mais là, 2 ans et demi n'ont pas été trop pour monter les
choses. J'imagine.
Parce qu'il y a aussi, après, il y a la documentation des œuvres et la rédaction du catalogue qui ne peut pas se faire non plus trop rapidement.
Et d'ailleurs, ici, je profite de rappeler encore à nos internautes, à nos auditeurs, que ce catalogue est absolument superbe et plein d'informations avec évidemment de magnifiques illustrations. Donc, vous trouverez les références, bien entendu, sur notre site. Donc, Marianne Dupuy-Vacher, nous avons déjà beaucoup appris sur Fragonard et le génie qu'il était. Puis je vous demandais maintenant de nous faire une visite guidée à travers les 7 salles, je crois.
Oui, c'est 7 ça. Salles. C'est un peu comme 7 chapitres, en fait, on pourrait dire.
Oui.
C'est-à-dire, dans la première salle, c'est une salle très perturbante pour qui connaît Fragonard, parce que tout d'un coup, il n'a pas affaire à un seul artiste, mais à 10, on pourrait dire. C'est un raccourci de la carrière de Fragonard en tant que peintre d'histoire. Cette carrière, finalement, qu'il a abandonnée, mais sans dédaigner pour autant les sujets d'histoire. Donc, nous partons de son prix de Rome, en 1752, jusqu'au dernier tableau de sa carrière. De sa carrière, et pas de sa vie, parce qu'il s'est arrêté de peindre assez tôt. Son petit-fils nous dit à l'âge de 50 ans, ce qui ferait vraiment très, très, très court, mais il a dû s'arrêter à peu près dans les années, fin des années 80, 90.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Alors les raisons sont là aussi encore un peu obscures, différentes choses ont dû se mêler. On a dit qu'il était en fait démodé. Je crois que justement les œuvres que nous exposons montrent que non, qu'au contraire il préfigure le romantisme de certaine manière, plutôt qu'il cherche à s'adapter au néoclassicisme. La mort de sa fille à l'âge de 18 ans, Rosalie, va être un grand drame dans la vie de Fragonard, qui va tomber gravement malade, qui va repartir à Grasse. Et puis, quand il revient à Paris en pleine Révolution, eh bien évidemment, sa clientèle est décimée, a émigré ou bien a péri sur l'échafaud. Autant de raisons qui peuvent expliquer cette fin un peu en sourdine par rapport à une carrière qui est très, au contraire très vive, très colorée, pleine de bonheur et de joie de vivre.
Il a pu garder son appartement au Louvre ?
Alors, il a pu garder son logement au Louvre et grâce à David, trouver toujours une occupation. Si finalement le pinceau lui tombe des mains, si l'inspiration n'est plus là pour se renouveler, il va continuer à vivre au Louvre et faire partie des équipe de conservateurs du musée du Louvre. Notamment, il rejoint Hubert Robert, qu'il retrouve dans cette fonction. Et là, alors que nous n'avions aucun document de sa main pendant toute sa carrière, là, nous avons sa signature pratiquement de jour par jour, puisqu'il signe les procès-verbaux du Conseil des conservateurs. Et il est sans doute assez heureux dans cette fonction, parce qu'il voit, il doit trier, classer, ordonner les accrochages des tableaux qu'il adore, les maîtres qu'il vénère, comme Rubens, comme Rembrandt, tous ces tableaux que les armées révolutionnaires
ont pris à l'étranger. Qui était une autre source d'inspiration, d'ailleurs.
Voilà, très importante. Et puis, il s'occupe aussi du transfert des œuvres de la collection royale de Versailles à Paris, qu'il ramène au Louvre. Et c'est amusant pour l'anecdote de savoir que c'est sous la bonne garde de Fragonard que la Joconde revient au Louvre.
Ah oui.
Alors la Joconde...
Qui était où ?
À Versailles, mais évidemment, la Joconde n'était pas l'icône qu'elle est devenue depuis. C'était un tableau parmi d'autres, mais c'est amusant pour l'anecdote de savoir ça.
Merci, Frago.
Merci, Frago, absolument.
Dans la première salle, on fait connaissance avec
le peintre d'histoire.
Voilà. Oui, où se trouve justement le fameux Jéroboam sacrifiant aux idoles. Oui.
Et puis d'autres tableaux moins connus, comme un tableau un peu dans la veine de Boucher, qui est à Marseille, et qui d'ailleurs était attribué à Boucher jusqu'à ces dernières années, et que Jean-Pierre Cuzin a réattribué à juste titre à Fragonard. Et puis un tableau complètement inédit.
La naissance de Vénus, voulez-vous dire, voilà.
Oui. Et puis il y a un tableau complètement inédit que j'intitule Le sacrifice interrompu, mais je n'ai pas réussi à identifier le sujet, qui est un tableau qui ne figure dans aucune des monographies, que je suis très fière d'avoir pu débusquer dans un petit musée en Espagne, à Vigo, une ville qui se trouve au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et un tableau très intéressant, vraiment un sujet d'histoire, tiré de la mythologie ou de l'histoire antique.
Avec un clair-obscur, très mystérieux.
Et puis beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation, avec cette femme qui fuit vers la gauche et cet homme qui arrive sur la droite avec un lion, un gros lion, avec des yeux rouges et une langue rouge. Donc, scène
comment
mystérieuse.
Comment vous l'avez déniché ?
Eh bien, c'est grâce à Pierre Robinbert, parce que ce tableau, donc inconnu, faisait partie d'une donation de Policarpo Sanz, un riche amateur collectionneur du 19e siècle, qui a fait don de sa collection à sa ville natale, Vigo. Et le musée de Vigo a rendu hommage à ce donateur il y a quelques années en faisant un catalogue de cette exposition. Et par chance, Pierre Robinbert a reçu ce catalogue, donc il se trouvait dans sa documentation. Et donc, j'ai pu tomber dessus et rentrer en contact avec le musée, qui était ravi parce qu'eux-mêmes n'étaient pas très certains qu'il s'agissait d'un tableau de Fragonard. Il n'y a pas de spécialiste de Fragonard en Espagne. Et donc, ils ont été très heureux de prêter, là, justement, pour pouvoir affirmer cette attribution.
Oui, je vous ai demandé quelques secrets pour dévoiler
voilà.
un petit peu
là,
les joies et les peines d'un commissaire d'exposition. Et ben, nous voilà. Et puis, on passe à la salle suivante.
La seconde salle, c'est la salle Fragonard que tout le monde attend. Ce sont les sujets dits libertins et galants, avec surtout de beaux portraits de femmes, légèrement dénudées, mais très touchantes, tendres, avec des regards un petit peu ambigus. Une jeune femme qui tient des chiots sur son poitrail, une autre qui lui répond avec un chien.
Oui.
Et puis, c'est là où se trouvent les très belles esquisses de Fragonard pour le décor que lui avait commandé la comtesse du Barry, la maîtresse de Louis XV. Lui avait commandé un grand décor pour son pavillon de Louvciennes, construit par l'architecte Ledoux. Grand panneau, superbe chef-d'œuvre de Fragonard, qui se trouve aujourd'hui à la Frick Collection, parce que la du Barry les a refusés.
À New York ?
Voilà, à New York. Mm. Et les tableaux à peine mis en place ont été refusés par la du Barry. Fragonard les a roulés, les a rangés dans son atelier. À la Révolution, quand il retourne à Grasse, il les installe dans la maison de son cousin, Maubert. Et puis, au début du XXe siècle, un Américain passe, les a vus et a compris qu'il s'agissait d'un grand chef-d'œuvre et les a rapportés aux États-Unis, où ils se trouvent toujours. Et il faut aller à la Frick Collection pour admirer ce
Bien
grand
sûr.
Décor.
Mais les esquisses sont intégrées dans le musée, c'est-à-dire...
Voilà,
une sorte de panneau.
Et les petites esquisses de
sont délicieuses.
Sont merveilleuses. Et je suis très contente là aussi d'avoir pu emprunter une autre esquisse très peu connue qui vient du musée de Pittsburgh aux États-Unis, qui reprend un des motifs ou qui prépare un des motifs de ces grandes compositions pour la du Barry. Et un petit tableau qui n'est pas accepté par tous les spécialistes. Par exemple, Jean-Pierre Cusin pense que c'est un pastiche de Fragonard et que ce n'est pas de Fragonard. Alors que moi, je partage l'avis de Pierre Robinbert et qu'il s'agit bien d'un tableau de la main de Fragonard.
Qui serait la poursuite ?
Oui, la poursuite, absolument. Mmh. Petit tableau horizontal, alors que les deux autres esquisses sont en hauteur. Et je pense que la comparaison est vraiment intéressante pour voir ce style très rapide, un peu empâté, étincelant, pétillant de Fragonard.
Et puis dans cette salle, on trouve la fameuse scène escarpolette.
Alors, non, attention, il ne faut pas décevoir le futur public. L'escarpolette, les hasards heureux de l'escarpolette, le plus célèbre tableau sans doute de Fragonard, appartient à la Wallace Collection à Londres. Et les statuts de ce musée interdisent tout prêt à l'extérieur, comme d'ailleurs la Frick Collection New York.
Et comme à Jacques Marandré d'ailleurs, je pense.
Ah non, Jacques Marandré peut prêter.
Oui,
bien sûr. Bien sûr.
En tout cas, je sais que Chantilly...
Chantilly ne peut pas, absolument.
Et pour nos éditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant de ce petit aparté entre connaisseurs de la chose, c'est que dans le patrimoine de l'Institut de France, il y a donc plusieurs châteaux ou musées, comme Jacques Marandré ou le château de Chantilly. Et dans le testament, il est indiqué que Chantilly, par exemple, n'a pas le droit de prêter.
C'est un musée qui n'a jamais bougé. Même
sortir aucun tableau de leur aussi très belle collection, bien entendu.
Mais alors là, je voulais quand même vraiment évoquer ce tableau célébrissime. Et donc, on a présenté une grande gravure assez belle de Nicolas Delaunay, un des graveurs préférés de Fragonard, donc qui reprend bien cette belle composition très amusante.
Et puis la salle de...
Donc ensuite, nous avons une petite salle qui évoque
la
fontaine avec les illustrations des contes et aussi d'une fable avec le tableau d'après Perrette et le Potolé. Et puis ensuite, nous arrivons dans la salle 4 consacrée aux scènes champêtres et familiales et qui sont surtout inspirées justement des contemporains de Fragonard avec cette atmosphère un petit peu à la Rousseau, des scènes, ce qui se passe donc souvent à la campagne, soit en plein air, soit dans des intérieurs rustiques et qui montrent des tas de bambins rassemblés autour d'un berceau et des parents qui se penchent sur le berceau.
Très charmant,
très fraîche.
Très intimiste.
Et là, Fragonard s'inspire tantôt de Marmontel, tantôt de Saint-Lambert, tantôt d'autres auteurs que je n'ai pas pu encore identifier, mais en tout cas, on sent une inspiration littéraire derrière ses œuvres qui sont tout à fait en adéquation avec le goût de l'époque. Et puis, il y a aussi dans cette salle un dessin inédit en relation avec Madame de Genlis, Madame de Genlis, qui était la préceptrice des enfants du duc d'Orléans, a été aussi la maîtresse du duc d'Orléans. Du duc d'Orléans, d'ailleurs, qui a passé une commande à Fragonard pour des tableaux qui nous sont inconnus aujourd'hui. Et dans les années 80-90, la comtesse de Genlis a écrit Les Veillées des Châteaux. C'est un grand roman très édifiant, très moral, un peu sérieux. Aujourd'hui, on ne pourrait plus lire ça aux enfants qui trouveraient ça très barbant. Mais à l'époque, c'était un grand, grand succès, comme Harry Potter aujourd'hui, par exemple. Mmh. Et Fragonard les a illustrés. Enfin, a commencé, comme toujours, Fragonard commence, puis au bout d'un moment abandonne, a commencé à illustrer ces veillées des châteaux dans une autre technique, à la pierre noire et à l'estompe, des effets assez doux. Et là, on expose un de ses dessins pour évoquer justement toute la palette de Fragonard, qui commence avec les contes libertins et qui finit avec des contes très moraux.
Il y a dans cette salle un tableau que j'aime particulièrement, c'est Pâtre jouant de la flûte en compagnie d'une paysanne.
Oui.
C'est d'une telle finesse et on sent vraiment l'air de la campagne.
Et dans ces paysages, justement, Fragonard là, s'inspire des maîtres hollandais du XVIIe siècle.
Oui.
Ruysdael, Obema,
oui, Ruysdael, oui.
Il aime
oui.
beaucoup faire ses ciels très bas, et ses paysages
Ruysdael,
où il y a une branche un peu foudroyée qui se détache.
Oui.
Il aime beaucoup le Nord. Il y a voyagé plusieurs
très,
fois.
Très, très délicate.
Mordoré.
Une subtilité extrême, oui. Donc, c'était les cinq champêtres.
Ensuite,
qui sont aussi moins connus quand même.
Oui, c'est vrai. En tout cas, on ne s'était jamais trop interrogé de savoir quels étaient vraiment les sujets. Finalement, Fragonard est tellement virtuose, son style est tellement éblouissant qu'on n'est jamais cherché à comprendre, à aller voir un peu plus loin ce qu'il y avait dessous, en fait. Et c'est là l'intérêt, je pense, de l'exposition, c'est d'arriver à voir que Fragonard, c'est pas juste, le sujet n'est pas gratuit. Il y a derrière une intention, il y a un modèle.
Une connaissance, donc, grâce à vous, on a découvert.
Et une subtilité dans l'interprétation aussi.
Oui.
Ensuite, nous avons aussi des dessins quasiment inédits, illustrant le petit conte libertin du chevalier de Boufflers, Aline, reine de Golconte. Une histoire un petit peu comme la chanson Le tourbillon de la vie. Un jeune galant qui bascule une petite laitière, et puis ils se quittent, et ils vont vivre chacun leur vie, ils se retrouvent, ils se quittent à nouveau, ils se retrouvent sans arrêt. Et là, on présente quatre dessins d'un style peu assuré de Fragonard. C'est très intéressant, c'est assez tôt, c'est au retour d'Italie vers 1761-62. Où il tâtonne un petit peu pour trouver son propre style. Et la dernière scène qui est très jolie, où le chevalier arrive au royaume de Golconde en Inde et salue la sultane du pays. Il n'a pas encore reconnu que c'était la petite Aline qu'il avait séduite bien des années dans leur jeunesse. Et en écho, on expose une très jolie petite sultane.
Ah, qui est une pure merveille.
Petit tableau peint sur bois avec des tons mordorés, un éclairage justement qui évoque bien le mystère de l'Orient.
Oui, alors là, si vous permettez, je vais quand même lire quelques lignes de votre commentaire au sujet de la petite sultane qui vient donc de
Muncy, aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui.
C'est leur Joconde au musée. Et avant que
c'est un musée, on comprend.
Petit détail, justement dans les coulisses de l'exposition, avant que le tableau ne quitte le musée de Muncy, les trustees, les associations des amis du musée de Muncy, il y a eu un dîner, ils sont venus dire au revoir au tableau.
En l'embrassant probablement.
Pratiquement.
En tout cas, vous écrivez qu'on peut admirer les effets de clair-obscur qui évoquent ici avec subtilité un Orient mythique très prisé au XVIIIe siècle. La lumière dore la chevelure de la jeune fille, glisse sur son collier de perles, fait scintiller la soie de sa tunique. La ceinture à lourds cabochons de bois et de galons ocre de l'ottomane bleu-vert, ainsi que le riche tapis, ajoutent à l'exotisme de la toile, etc., etc. Mais vraiment, d'ailleurs, vous avez fait des commentaires absolument superbes, parce qu'on les lit d'une manière très simple, très rapide.
Fragonard est inspiré.
Et voilà, Fragonard vous a vraiment inspiré et c'est très, très joliment exprimé. Et on prend autant de plaisir à lire vos textes presque, à regarder l'étoile. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier le Roland furieux
voilà, parce
dont
que
nous avons déjà beaucoup parlé.
Très important sur, finalement, Fragonard amoureux, on peut dire passionné par les romans épiques, les romans de chevalerie, les poèmes de la Renaissance du XVIIe siècle. Et on découvre un Fragonard collaborateur d'ouvrages historiques, comme l'histoire de la maison des Bourbons, pour lequel
oui.
il a donné 6 portraits. Et on présente un tableau qui représente François de Bourbon, le duc de Navarre. C'est complètement inconnu de loin. Le public croit qu'il s'agit d'un tout autre artiste que Fragonard. Et en effet, Fragonard, dans ce portrait, a cherché à retrouver la technique et à imiter la technique des portraitistes de la Renaissance, comme les Clouet, par exemple.
Oui.
Et puis, bien sûr, on évoque le Roland furieux, Orlando Furioso, grand poème de la Renaissance, donc, que nous en avons parlé tout à l'heure. Et puis, Don Quichotte, de Cervantes, très célèbre aussi au XVIIIe siècle, et que Fragonard illustre, enfin commence à illustrer. Il s'arrête aussi au bout de quelques chapitres, mais il a eu le temps de représenter le célèbre combat contre les moulins que Don Quichotte a pris pour des géants.
Donc tout ça nous prouve presque d'une manière évidente que c'est Fragonard, quand même un lettré.
Absolument.
Et surtout un grand lecteur.
Et qu'il adapte son style à chaque fois. Autant nous avons un style tourbillonnant, virevoltant, lyrique pour l'Arioste, tout à fait, qui accompagne bien la musique.
Oui.
Et puis avec Don Quichotte, c'est un style nerveux, saccadé, qui épouse là, folie de Don Quichotte. Et ses dessins sont tellement différents, alors qu'ils sont pourtant à peu près à la même époque chez Fragonard, qu'un spécialiste, il y a une vingtaine, trentaine d'années, des dessins de Fragonard, avait cru que ces dessins de Don Quichotte n'étaient pas de Fragonard. Il pensait que c'était de son fils.
Oui, c'est
alors que c'est
pas
ça.
Pas la même plume, on dirait.
Non,
oui.
c'est ça. Qui
alors c'est que très plus régulier.
Doute,
oui.
C'est vraiment une façon de s'adapter, de comprendre et de vouloir transmettre aussi. C'est quelqu'un qui pense au public, à celui qui va le regarder et au plaisir du public.
Et puis, on finit avec Fragonard, portraitiste de génie et portraitiste du génie. Donc là, on trouve le songe de Plutarque ou le vieillard lisant, ou un portrait de Diderot. Qui est peut-être pas Diderot d'ailleurs.
C'est le portrait d'un homme inspiré qui ressemble beaucoup à Diderot. Il a les yeux bleus alors que Diderot avait les yeux marrons. C'est très probablement Diderot, mais un peu revisité avec par la fantaisie de Fragonard, qui cherche surtout à capter justement le moment de l'inspiration, la réflexion de la pensée. C'est des choses assez abstraites que Fragonard arrive à mettre en scène de manière très intelligente et subtile, parce que lui-même sait ce que c'est. C'est ce que c'est que la recherche, la quête de l'inspiration, de l'idée. Et en effet, ce philosophe, par exemple, inspiré qui vient de Hambourg, est assez extraordinaire. On voit sa passion de la lecture. Il est échevelé, ébouriffé, et le pinceau tourne et donne une espèce d'agitation tout à fait, là aussi, qui rend bien l'aspect troublé, troublant de
son esprit, et qu'on voit dans le pinceau
donc
de Fragonard. Oui, c'est très, très... C'est clair. Mais à propos de Diderot, je vois qu'il l'aurait peint vers 1767, donc déjà bien après ses débuts de peintre libertin, disons.
Oui.
Et alors, il n'en a pas voulu à Diderot.
Je suppose que Diderot n'a pas connu ce portrait, parce que Diderot donc a beaucoup loué Fragonard en 1765. Et deux ans après, quand Fragonard expose, encore une fois, mais pour la dernière fois au Salon, le lieu où les artistes contemporains exposent, il, au contraire, l'attaque de manière assez dure, et Fragonard n'a pas dû supporter. Et notamment, Diderot critique beaucoup une tête de vieillard, brossée d'une manière très rapide. Et justement, Diderot ne devait pas supporter ce style trop rapide, qu'il devait trouver trop désinvolte. Et le portrait de Diderot par Fragonard est dans ce style. Et donc, je pense que Diderot, s'il l'a vu, en tout cas, ne l'aurait pas accepté. En tout cas, il n'en a jamais parlé, alors que Diderot est plutôt bavard sur ses propres portraits. Donc, ce qui fait penser que c'est plutôt resté dans l'atelier de l'artiste.
Ah oui, oui. Bon, mais écoutez, vraiment, je regrette infiniment d'être obligée de vous laisser, de vous quitter, parce que nous arrivons à la fin de notre entretien. Je rappelle cette merveilleuse exposition à travers une centaine d'œuvres, et vraiment de chefs-d'œuvre, intitulée « Fragonard, les plaisirs d'un siècle ». Elle se tient donc au musée Jacques-Marandré du 3 octobre 2007 au 13 janvier 2008. Et il réunit un ensemble unique d'œuvres venues d'institutions publiques et de collections privées, vraiment des plus prestigieuses du monde, comme le musée du Louvre, l'École nationale supérieure des beaux-arts ou le musée national d'art catalan de Barcelone, c'est intéressant, la National Gallery de Washington ou le British Museum de Londres, enfin pour n'en citer que quelques-uns, aussi la Bibliothèque nationale à Paris.
Et la Bibliothèque de l'Institut.
Et la Bibliothèque de l'Institut, bien sûr, merci de nous le rappeler. Et elle dévoile plusieurs œuvres inédites et d'autres qui n'avaient jamais été présentées en France et n'avaient encore figuré dans aucune des rétrospectives de l'artiste. Donc c'est vraiment une exposition extrêmement intéressante et je ne peux que dire à tous nos auditeurs, courez-y si vous avez l'occasion de passer par Paris. Donc un grand, grand merci à vous, Marie-Anne Dupuis-Vacher, pour nous avoir fait connaître, outre le Fragonard, peintre des plaisirs de son siècle, un Fragonard nouveau, un Fragonard lettré, qui vous doit à vous aujourd'hui d'être reconnu comme tel. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.